Bonsoir, comment allez-vous ? Il y a quelques jours, ou plutôt quelques nuits, je dormais, seule, dans une vieille maison isolée à la campagne. Dehors, il faisait un noir d'encre, un froid de loup et un silence absolu. Quand tout à coup, j'ai été réveillée par une voix. Une voix qui venait de l'intérieur de la maison alors qu'il n'y avait personne et que tout était fermé. Qui me parlait haut et fort à cette heure ? Qui était-ce ? Je ne le saurais jamais. Mais j'ai écouté ce que disait cette voix. Elle me disait que si je le désirais, je pouvais obtenir des renseignements sur la technologie du dernier iPhone. Seulement, je ne le désirais pas. Et j'ai été réveillée quand même, avec en prime une peur bleue, avant de réaliser que cette voix sortait de mon propre téléphone. Cette histoire est de fou, non ? De publicité, en fait. L'après-midi, je décidais de préparer une fondue savoyarde. Alors je suis allée chercher une recette sur Internet, tout se passait bien, quand tout à coup, à nouveau, sur les noms de fromage, est apparu un ongle de gros doigts de pied, un ongle horrible, jaune, sale, nécrosé. Mais qu'est-ce que cet orteil répugnant faisait dans ma fondue ? Publicité pour un produit censé soigner le malheureux qui dormait en chaussettes, car un truc pareil, on ne le montre à personne. Enfin, pour me rafraîchir la vision, j'ai allumé la télévision, espérant voir un docu animalier comme on en propose souvent avant le dîner. Une jolie petite marmotte m'aurait fait du bien, ou bien une vache des Highlands avec ses belles cornes sous la neige. Et j'ai eu, après les fuites urinaires, les canalisations de WC bouchées. C'est moi qui suis parano, ou c'est la pub qui veut ma peau ?
Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 7 ans, et je voudrais savoir comment est apparue la publicité. Merci.
Comment est apparue la publicité, vous demande Zoé, Bernard Strigler ?
Eh bien, elle est apparue au 19e siècle. À cette époque-là, on ne l'appelait pas la publicité, on l'appelait les annonces. Il y a eu la création d'une compagnie qui s'appelait la Compagnie Générale des Annonces vers 1860 en France, 60-70.
Je pensais que vous alliez dire réclame.
On appelait ça les annonces chez les professionnels, et dans le public, on appelait ça la réclame. Ensuite, on a appelé ça la publicité pour traduire en fait un mot américain qui est advertising, avertissement. Pourquoi est apparue la publicité ? Au sens contemporain du terme, parce que sinon il y a un sens beaucoup plus ancien, mais je ne vais pas en parler. Elle est apparue lorsque s'est développée la société industrielle, qui reposait sur la production de nouveaux produits, que les gens ne connaissaient pas. Et les gens n'en voulaient pas, parce que les gens n'aiment pas la nouveauté en général. C'est artificiel le goût de la nouveauté. On le provoque de plus en plus, le marketing est entièrement fait pour ça. Mais au 19e siècle, donc, une société nouvelle est apparue, la société industrielle, qui s'est mise à produire beaucoup de choses. Des becs de gaz pour éclairer, des nouveaux produits dans les grands magasins qui sont apparus sur les grands boulevards à Paris. Toutes sortes de choses, des ustensiles de cuisine qui n'existaient pas. Bref, il fallait convaincre les gens que c'était pour leur bien. Par exemple, le vélo. Les gens ne voulaient pas faire de vélo. Et je comprends pourquoi. Moi-même, j'ai essayé de faire du vélo pendant un an. J'avais 5 ans. Je me suis cassé la figure je ne sais pas combien de fois. Donc, je me faisais mal. Donc, on a créé le Tour de France pour convaincre les gens de faire du vélo. Et c'est comme ça que l'industrie du vélo s'est développée. Donc, la publicité au départ est faite pour convaincre les gens. Et aujourd'hui, elle est faite pour mener une guerre contre ses concurrents. C'est-à-dire, voilà, on essaye de vendre des couches culottes ou des bouteilles de lait plus que son concurrent. On essaye de convaincre que son lait est meilleur, qu'il est moins cher ou je ne sais pas quoi. Le problème, c'est que ça a envahi la société entière. Ça a donné ce qu'on appelle le consumérisme aujourd'hui. Et c'est une catastrophe parce que la publicité, c'est ce qui incite les gens à consommer n'importe quoi dont ils n'ont pas besoin. Et malheureusement, toute la société est maintenant pliée à ça. Donc la publicité est devenue toxique. Je suis pas contre la publicité, moi. Je suis pas contre la société industrielle. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va beaucoup trop loin.
Alors, y a-t-il des choses dont on n'a pas besoin ? Enfin, on le sait très bien qu'il y a des tas de choses dont on n'a pas besoin. Il suffit d'aller faire ses courses dans un grand magasin, c'est tellement amusant, tellement plaisant. On en revient à la publicité. Et des choses dont on a besoin. Moi, je trouve que le vélo, c'est pas mal pour se déplacer.
Bien sûr que c'est très bien le vélo pour se déplacer. Ça veut dire qu'il faut des routes goudronnées, quoique on peut aussi avoir un VTT. Disons qu'il faut avoir des routes et des chemins. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que n'importe quel objet produit par l'industrie fait système avec d'autres objets. Ou aussi avec d'autres gens d'ailleurs. Par exemple, vous avez plein de gens, vous avez dû entendre ça 50 fois, vous l'avez peut-être dit vous-même, j'aurais jamais de téléphone portable. Et puis vous finissez par en avoir un, parce que vous êtes obligé. Vos enfants en ont, vos parents en ont, vos amis en ont. Enfin, vous êtes obligé. Personne n'est obligé de rien.
Si, mais sinon on est trop marginal.
ça devient trop compliqué. Et ça, c'est un système un peu pervers, voilà, qui devient aujourd'hui, qui est rejeté. C'est aussi ça que les électeurs de Trump ont rejeté.
Le philosophe Bernard Stiegler enseigne à l'université de Compiègne et également aux États-Unis. Il dirige l'Institut de recherche et d'innovation INRI. Il a écrit, entre autres, « Au lien qui libère, dans la disruption, comment ne pas devenir fou ?» Voilà les questions qui ont été posées au petit bateau ce soir. Pourquoi les sièges de théâtre et de cinéma sont rouges? Est-ce que les moules déménagent? Et pourquoi dans l'Antiquité, pendant que les Grecs construisaient des temples, les Gaulois construisaient des huttes? C'est une question. Allez, reprenons la route.
Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 9 ans. On m'a dit que les panneaux routiers coûtaient très 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 cher. Peut-être 1000 euros. Je voudrais savoir si c'est vrai. Merci, au revoir.
Merci à toi, Bastien, d'avoir soulevé cette question qui est bien intéressante. Vous avez écrit, Jacques Nouvier, « La signalisation routière en France de 1946 à nos jours » chez AMC. C'est intéressant ce que demande Bastien.
Mais oui, tout à fait. Alors, un panneau, enfin bon, ça paraît tout bête, mais il faut que Bastien sache que c'est pas un simple morceau de tôle qu'on met comme ça au bord de la route, c'est plus compliqué. Alors, je vous parle d'abord de la signalisation fixe. Alors, un panneau, il se compose d'une plaque sur laquelle on va appliquer des revêtements qui donnent les décors, par exemple le dessin d'un virage, si vous voulez. Et la plupart des panneaux sont aujourd'hui des panneaux rétro-réfléchissants, de manière à ce qu'ils soient aussi visibles finalement la nuit que le jour. Alors ces premiers panneaux rétro-réfléchissants, ils ont été inventés aux États-Unis en 1939, et ils sont arrivés tout doucement en France au début des années 50. Alors, pour compléter, avant de répondre sur le prix, il y a une question de bon sens. On peut pas mettre des panneaux de même taille dans une petite rue en ville et puis sur autoroute.
Oui.
Tout simplement parce qu'il y a une question d'encombrement puis de vitesse. Et donc, ça veut dire que sur autoroute, on peut avoir de très grands panneaux. Par exemple, un panneau de danger sur autoroute, ça fait 1,5 mètre de côté. Et
c'est
dans un bureau, ça ferait grand.
Oui.
Alors, le prix. Alors, ça varie énormément. Et c'est pour ça que je voudrais plutôt donner une fourchette. En général, on va dire, c'est plutôt de l'ordre de 150 à 500 euros avec pour un panneau, un prix moyen de l'ordre de 250 euros. Mais ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que on n'achète pas un panneau isolément en général.
Ouais.
On en achète par un certain nombre, donc les prix sont différents.
Il faut bien calculer, il faut pas qu'il nous en reste sur les
bras. Et puis attendez, il faut bien voir aussi qu'il faut les poser, ces panneaux.
Ah oui.
On va pas les tenir à bout de bras. Donc ça veut dire que il faut qu'on puisse mettre un support, qu'on puisse couler le support dans la terre, etc.
Ouais.
Et dans certains cas, regardez en région parisienne, vous avez des panneaux par exemple sur des ouvrages, ça peut coûter extrêmement cher, la pose. Alors, c'est pour ça que si vous prenez un panneau sur autoroute, sans aller jusqu'au cas extrême de panneau sur ouvrage, le chiffre de 1000 euros est tout à fait
possible,
absolument. D'accord. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot, justement, à Bastien sur la signalisation variable. Parce que il y a différentes sortes de signalisation variable qui existent, mais par exemple, vous savez, les grands panneaux qu'on met sur autoroute, au-dessus des voies.
Qui signalent la pollution,
voilà,
la traite sera fermée ce
exemple,
soir,
etc.
Respectez votre voisin.
Voilà, vous pouvez dire des tas de choses dessus, vous pouvez dire tout ce que vous avez envie de dire finalement. Donc, c'est des panneaux beaucoup plus complexes, il y a des diodes ou des fibres optiques, il y a des systèmes de télécommande.
Ah bon, d'accord.
Et donc, ces panneaux sont très, très onéreux. On va dire entre 100 et 150 000, vous voyez, c'est quand même un autre monde. Alors, je finirai en disant que dans le domaine des panneaux à messages variables, justement, on a des constructeurs français qui sont vraiment très réputés.
Ah oui.
Et pas seulement chez nous, quoi. Je veux dire, au niveau européen,
bon.
Même au niveau mondial.
Moi, je me demande, ces panneaux, on vous donne parfois des indications utiles et parfois des indications qui sont assez longues. Sont-elles utiles? En tout cas, pendant qu'on regarde le panneau, qu'on déchiffre les deux lignes, on regarde pas la route.
Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le niche libou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Spère, c'est si bon quand on spère. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spamme, c'est si bon quand on spamme. D'être si bon ici.
C'était Camille, une petite air de Charles Trenet, féminin du 21e siècle.
Les petits bateaux sur France Inter.
Yann Le Boeck, vous l'avez déjà entendu au petit bateau, est professeur honoraire à la Sorbonne, spécialiste de l'Antiquité romaine, et vous trouverez les références de ses livres sur le site des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 8 ans, et je voudrais savoir pourquoi, pendant l'Antiquité, les Grecs construisaient des monuments comme les temples alors que les Gaulois ne vivaient que dans de simples huttes. Merci, au revoir.
C'est nous qui te remercions, Juliette, pour ta question que nous proposons à Yann Le Boeck. Alors, Juliette demande pourquoi les Grecs construisaient des monuments et nous, Gaulois, nous construisions de simples huttes au même moment.
Eh bien, je suis triste pour Juliette, parce qu'elle a été victime d'une information tronquée.
Ah.
Alors, deux points. D'abord, l'architecture grecque est évidemment admirable. Pourquoi est-ce que les Grecs ont construit des monuments aussi admirables ? Eh bien là, je n'ai pas de réponse. Pourquoi est-ce qu'un homme est beau ? Pourquoi est-ce qu'il est intelligent ? C'est peut-être le hasard, peut-être les dieux qui ont voulu qu'il en soit ainsi. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est ce qui concerne les Gaulois. Les Gaulois n'étaient pas des barbares. C'étaient des gens qui avaient élaboré une civilisation et qui savaient construire. Ils avaient construit des villes, et notamment, ils les protégeaient par un mur que César appelle le Murus Gallicus, le mur gaulois, dont il dit qu'il est admirable. Ah. César a fait un éloge du Murus Gallicus qui est étonnant. On peut en voir reconstitué un élément au Mont Beuvray. Ils ont construit des temples, à Gournay-sur-Aron, à Ribemont-sur-Ancre, notamment, qui sont fouillés encore à l'heure actuelle, et ils ont aussi construit des villas. Mais il est vrai, et là c'est ce qui explique la réponse qu'on a faite à Juliette, qu'ils utilisaient beaucoup la terre et le bois, et que ces constructions ont disparu et ont été remplacées très souvent par des constructions en pierre d'époque romaine.
Alors vous avez dit, Yann Le Boeck, qu'ils construisaient des temples. Quels étaient les dieux des Gaulois ?
Oh, ils avaient un panthéon qui, en fait, était assez semblable et assez différent du panthéon romain. Alors, il était semblable en ce sens qu'il y avait des dieux anthropomorphes et des grands dieux. Ils avaient un Jupiter, que les Romains avaient Jupiter comme grand dieu, et les Gaulois avaient Taranis. C'était exactement l'équivalent, c'était un dieu du ciel d'orage, un des grands dieux de leur panthéon. Et puis, alors, ce qui était plus original chez les Gaulois, c'est qu'il y avait des dieux qui étaient en partie ou totalement animaux. Par exemple, la déesse Artio était une ours. Il y avait d'autres dieux qui avaient un élément animal et un corps humain. Par exemple, Cernunnos avait des bois de cerf sur un corps d'homme. Vous avez en outre des dieux qui, ou des déesses, qui étaient accompagnés en permanence par un animal. Par exemple, la déesse Epona est une femme, depuis les cheveux jusqu'aux pieds, toujours montée sur une jument.
Donc ça allie plusieurs forces.
Ça allie plusieurs forces. Bien entendu, le dieu qui est représenté comme un animal, ou qui a un élément animal, ou qui est accompagné par un animal, a les caractéristiques de cet animal. Le cerf est un animal qui a la réputation d'être très fécond, d'avoir une progéniture abondante. Et donc, c'était un dieu de la reproduction des humains et des animaux.
Y avait-il une déesse de la moule ? C'est le principe des petits bateaux que de passer du coq à l'âne et des romains aux moules.
Je me présente, je m'appelle Ina. Je voudrais savoir si les moules de la mer déménagent. Merci.
Eh bien voilà qui est bien formulé, Élan. Jean Prou, je te le présente, Élan. Jean Prou est chercheur, spécialiste des mollusques. Vous êtes directeur du centre de recherche Ifremer de la Tremblade, c'est en Charente-Maritime. Est-ce que les moules déménagent, demande Élan.
Eh oui.
Ah
eh
oui, oui.
Mais en pas longtemps, hein, parce que la caractéristique des moules, la caractéristique des huîtres, c'est de rester accroché quelque part en général et puis de pas trop bouger. Alors, elles bougent quand même. Alors, les huîtres bougent moins que les moules, parce qu'elles, quand elles se collent à quelque chose, à un rocher, il y a une espèce de petite colle, au bout de 20 jours de leur vie, elles se collent. Alors, elles peuvent se décoller un tout petit peu, aller voir ce qui se passe ailleurs, et puis, mais pas très loin, et puis se recoller une deuxième fois, puis après, c'est terminé, elles restent pour toute leur vie au même endroit. Les moules, elles font ce qu'on appelle un byssus. C'est comme si elles sortaient de leur corps un élastique qu'elles produisaient et puis qu'elles accrochaient l'élastique au rocher. Alors elles peuvent décrocher l'élastique puis aller voir ce qui se passe ailleurs, toujours dans les premiers moments de leur vie, hein, dans les 30 premiers jours. Si c'est un rocher où il y a trop de mer, ou s'il n'y a pas assez de nourriture, ou si il y a déjà trop de moules, elles vont pouvoir changer de place et puis aller s'accrocher un petit peu ailleurs. Puis après, quand ça sera accroché, on reste à peu près au même endroit. Elles sont bien toutes ensemble, là, ça fait des colonies. Donc, ils bougent plus après. C'est dans les premiers âges, vraiment dans les premiers jours, que les animaux peuvent encore bouger. Après, leur vocation, c'est quand même de rester accrochés là où ils sont.
Vous pouvez réécouter cette réponse ainsi que tout le reste de l'émission sur franceinter.fr.
The dance. Well, I'm
J'ai cru que Jean-Baptiste Audibert était allé déterrer un disque de mon adolescence. Eh ben non, malgré ses sonorités, Sonic Waterhouse est tout neuf. Vous écoutez France Inter, c'est une bonne idée. Le répondeur des petits bateaux, c'est le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir pourquoi les sièges de cinéma, de théâtre, etc. sont toujours rouges. Merci.
Bonsoir Jeanne. Agathe Sangean, elle est rouge aussi, le livre que vous avez écrit qui s'appelle Comédie française, édité au Seuil. Donc Jeanne vous parle de la couleur des sièges de théâtre, de cinéma, ce rouge.
Oui, alors Jeanne, il faut savoir que les sièges n'ont pas toujours été rouges. Contrairement à ce qu'on observe effectivement aujourd'hui, c'est le cas dans la majorité des théâtres, mais c'est finalement pas si ancien que ça. Autrefois, donc quand je dis autrefois, c'était avant la Révolution française, les salles étaient à dominante bleue, vert, blanc et or.
Vert dans un théâtre ?
Exactement, vert. Alors le vert n'a pas toujours été une couleur maudite au théâtre. Cet usage s'est plutôt généralisé au XIXe siècle et c'était dû en fait à la couleur de certains vêtements qui étaient en fait dérivés d'une substance toxique et qui empoisonnait les comédiens lorsqu'ils transpiraient. Mais au XVIIIe siècle, le vert pouvait se trouver au théâtre. Pourquoi ces couleurs-là ? Dans les théâtres qui étaient les théâtres officiels, c'était majoritairement le bleu puisque c'était la couleur du roi.
C'est venu quand alors en fait le rouge ?
Le rouge, c'est venu après la Révolution française. En 1798, on a rénové le théâtre de Richelieu, qui allait devenir le théâtre de la Comédie française un an après. Et pour la première fois, les sièges, la décoration étaient dominés par le rouge et l'or. Et ça a été très critiqué à l'époque, puisqu'on était quand même assez proche de la période de la Terreur. Et on a dit, mais comment ça? Comment le théâtre peut adopter la couleur du sang qui a été versée par les Français durant cette triste période? Donc le théâtre a aussitôt changé pour revenir au bleu, à l'or et au blanc.
Dites donc, ça fait des frais.
Oui, c'était une période où on changeait assez souvent la décoration des théâtres. Et donc, cette couleur rouge est revenue au XIXe siècle, un peu plus tard, dans les années 1820. Alors, pourquoi le rouge ? J'ai cherché, c'est pas forcément une question évidente. Dans ces années 1820-1830, c'est le tout début du romantisme et d'une période où les décors de théâtre vont devenir très importants parce qu'on va essayer d'avoir une teinte historique, d'avoir une vérité historique des décors et des costumes, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant. Et le rouge, en fait, permettait par contraste de mettre en valeur la scène, alors qu'auparavant, c'était moins le cas. Et puis, il faut savoir aussi qu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, la salle est totalement allumée pendant le spectacle. C'est-à-dire que on voit aussi bien les spectateurs que les acteurs qui sont sur scène. Donc c'est pour ça que cette couleur contrastait plus avantageusement et permettait de mettre en valeur la scène de théâtre.
Ah, il faisait jour dans la salle.
Oui, il faisait jour dans la salle. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le bleu était privilégié avant la Révolution. On disait que le bleu mettait en valeur les toilettes des femmes et la peau donc des femmes qui reposaient leurs bras sur les accoudoirs des loges. Et donc, ce bleu était censé, justement, mettre en valeur le public plutôt que la salle.
On allait au théâtre, au spectacle en général, j'imagine aussi à l'opéra, pour voir, mais aussi pour être vu.
Exactement. C'est la grande tradition du théâtre, jusqu'à ce qu'on éteigne la salle, donc à la toute fin du 19e siècle.
Agathe Sangean est la conservatrice archiviste de la Comédie française. Nos petits bateaux sont terminés. Par ordre alphabétique, Noël Bréham, Fabrice Desmaz, Marjorie Devoucou, Eliane Girard. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous invitons à réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr. Et pour l'heure, nous vous laissons avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.